Chapitre 4. L'être est éternel, l'existence un passage. La mémoire éternelle en sera le message. Quand des adolescents ne mettent pas du chewing-gum dans le trou de la serrure, c'est moi qui ouvre et ferme les lourdes grilles du cimetière. Les horaires d'ouverture varient selon les saisons, de 8h à 19h du 1er mars au 31 octobre, de 9h à 17h du 2 novembre au 28 février. Personne n'a statué pour le 29 février. De 7h à 20h, le 1er novembre. J'ai repris les fonctions de mon mari après son départ, ou plus exactement, sa disparition. Philippe Toussaint apparaît sous la dénomination « disparition inquiétante » dans le fichier national de la gendarmerie. Il me reste plusieurs hommes pour horizon. Les trois fossoyeurs, Nono, Gaston et Elvis. Les trois officiers des pompes funèbres, les frères Luccini, qui se prénomment Pierre, Paul, Jacques, et le père Cédric Duras. Tous ces hommes passent plusieurs fois par jour chez moi. Ils viennent boire un verre ou manger une bricole. Ils m'aident aussi au jardin potager, si j'ai des sacs de terreau à porter ou à réparer des fuites d'eau. Je les considère comme des amis, pas comme des collègues de travail. Même si je ne suis pas là, ils peuvent entrer dans ma cuisine, se faire couler un café, rincer leurs tasses et repartir. Les fossoyeurs font un métier qui inspire de la répulsion, du dégoût. Pourtant, ceux de mon cimetière sont les hommes les plus doux et plaisants que je connaisse. Nono est la personne dans laquelle j'ai le plus confiance. C'est un homme droit, qui a la joie de vivre dans le sang. Tout l'amuse et il ne dit jamais non. Sauf quand il faut assister à l'enterrement d'un enfant, il laisse ça aux autres, à ceux qui ont le courage, comme il dit. Nono ressemble à Georges Brassens. Ça le fait rire parce que je suis la seule personne au monde à lui dire qu'il ressemble à Georges Brassens. Gaston, lui, a inventé la maladresse. Il a les gestes désajustés. Il a toujours l'air ivre, bien qu'il ne boive que de l'eau. Au cours des enterrements, il se place entre Nono et Elvis, au cas où il perdrait l'équilibre. Sous les pieds de Gaston, il y a un tremblement de terre permanent. Il fait tomber, il tombe, il renverse, il écrase. Quand il entre chez moi, j'ai toujours peur qu'il brise quelque chose ou qu'il se blesse. Et comme la peur n'évite pas le danger, chaque fois il casse un verre ou il se blesse. Elvis. Tout le monde l'appelle Elvis à cause d'Elvis Presley. Il ne sait ni lire ni écrire, mais il connaît toutes les chansons de son idole par cœur. Il prononce très mal les paroles, on ne sait jamais s'il chante en anglais ou en français, mais le cœur y est. Love me tender, love me true. Les frères Luccini ont à peine un an d'écart, 38, 39 et 40 ans. Ils travaillent dans les pompes funèbres de père en fils depuis des générations. Ils sont aussi les heureux propriétaires de la morgue de Brancion qui est attenante à leur magasin. Nono m'a raconté que seul un sas sépare le magasin de la morgue. C'est Pierre, l'aîné, qui reçoit les familles endeuillées. Paul est thanatopracteur, il est installé dans les sous-sols. Et Jacques est le chauffeur des fourgons funéraires. Le dernier voyage, c'est lui. Nono les appelle les apôtres. Et puis, il y a notre curé, Cédric Duras. Dieu a du goût, à défaut d'être toujours juste. Depuis que le père Cédric est arrivé, il paraît que beaucoup de femmes ont été frappées par la révélation divine dans la région. Il y aurait de plus en plus de croyantes sur les bancs de l'église le dimanche matin. Moi, je ne vais jamais à l'église. Ce serait comme coucher avec une collègue de travail. Pourtant, je pense recevoir plus de confidences de la part des gens de passage que n'en reçoit le père Cédric dans son confessionnal. C'est dans ma modeste maison et mes allées que les familles déversent leurs mots. En arrivant, en repartant, parfois les deux. Un peu comme les morts. Eux, ce sont les silences, les plaques funéraires, les visites, les fleurs, les photographies, la façon dont se comportent les visiteurs devant leur sépulture qui me racontent les choses de leur ancienne vie, de quand ils étaient vivants, en mouvement. Mon métier consiste à être discrète, aimer le contact, ne pas avoir de compassion. Ne pas avoir de compassion pour une femme comme moi, ce serait comme être astronaute, chirurgienne, vulcanologue ou généticienne. Ça ne fait pas partie de ma planète, ni de mes compétences. Mais je ne pleure jamais devant un visiteur. Cela m'arrive avant ou après un enterrement, jamais pendant. Mon cimetière a 3 siècles. Le premier mort qu'il a accueilli est une morte, Diane de Vigneron, 1756-1773, morte en couche à l'âge de 17 ans. Si on caresse la plaque de sa sépulture du bout des doigts, on devine encore son identité gravée dans la pierre grège. Elle n'a pas été exhumée, bien que mon cimetière manque de place. Aucun des maires successifs n'a osé prendre la décision de déranger la première inhumée. Surtout qu'il y a une vieille légende autour de Diane. D'après les habitants de Brancion, elle serait apparue dans ses habits de lumière à plusieurs reprises devant les vitrines des magasins du centre-ville et dans le cimetière. Quand je fais les vide-greniers de la région, je trouve parfois des représentations de Diane en fantôme sur d'anciennes gravures datant du XVIIIe siècle ou sur des cartes postales. Une fausse Diane mise en scène, déguisée en vulgaire fantôme de pacotille. Il y a beaucoup de légendes autour des tombes. Les vivants réinventent souvent la vie des morts. Il y a une deuxième légende à Brancion, beaucoup plus jeune que Diane de Vigneron. Elle s'appelle Reine du Chat, 1961-1982. Elle est enterrée dans mon cimetière, allée 15, dans le carré des cèdres. Une jolie jeune femme brune et souriante sur la photo accrochée à sa stèle. Elle s'est tuée en voiture à la sortie de la ville. Des jeunes gens l'auraient aperçue au bord de la route, toute vêtue de blanc, à l'endroit de l'accident. Le mythe des dames blanches a fait le tour du monde. Ces spectres de femmes mortes accidentellement hanteraient le monde des vivants, traînant leur âme en peine dans les châteaux et les cimetières. Et pour accentuer la légende de Rennes, sa tombe a bougé. D'après Nuno et les frères Luccini, c'est une histoire de glissement de terrain. Cela arrive souvent quand trop d'eau s'accumule dans un caveau. En 20 ans, je pense avoir vu beaucoup de choses dans mon cimetière. Certaines nuits, j'ai même surpris des ombres en train de faire l'amour, sur ou entre les tombes. Mais ce n'étaient pas des fantômes. À part les légendes, rien n'est éternel, pas même les concessions à perpétuité. On peut acheter une concession pour 15 ans, 30 ans, 50 ans ou l'éternité, sauf que l'éternité, il faut s'en méfier. Si après une période de 30 ans, une concession perpétuelle a cessé d'être entretenue, aspect indécent et délabré, et qu'aucune inhumation n'a eu lieu depuis longtemps, la commune peut la récupérer. Les restes seront alors placés dans un ossuaire au fond du cimetière. Depuis que je suis arrivée, j'ai vu plusieurs concessions périmées être démontées et nettoyées et les ossements des défunts placés dans l'ossuaire. Et personne n'a rien dit, parce que ces morts étaient considérés comme des objets trouvés que plus personne ne réclamait. C'est toujours comme ça avec la mort. Plus elle est ancienne, moins elle a de prise sur les vivants. Le temps désingue la vie. Le temps désingue la mort. Avec mes 3 fossoyeurs, nous faisons tout pour ne jamais laisser une tombe à l'abandon. Nous ne souffrons pas de voir apposer l'étiquette municipale. Cette tombe fait l'objet d'une procédure de reprise. Merci de contacter la mairie d'urgence. Alors que le nom du défunt qui y repose apparaît encore. C'est sans doute pour cela qu'il y a des épitaphes plein les cimetières, pour conjurer le sort du temps qui passe, s'accrocher aux souvenirs. Celle que je préfère est « La mort commence lorsque personne ne peut plus rêver de vous ». Elle est sur la tombe d'une jeune infirmière, Marie Deschamps, décédée en 1917. Il paraît que c'est un soldat qui a déposé cette plaque en 1919. À chaque fois que je passe devant, je me demande s'il a longtemps rêvé d'elle. Quoi que je fasse, où que tu sois, rien ne t'efface, je pense à toi. De Jean-Jacques Goldman et Les étoiles entre elles ne parlent que de toi, de Francis Cabrel, sont les paroles des chansons les plus reprises sur les plaques funéraires. Mon cimetière est très beau. Les allées sont bordées de tilleuls centenaires. Une bonne partie des tombes est fleurie. Devant ma petite maison de gardien, je vends quelques pots de fleurs, et quand elles ne sont plus vendables, je les offre aux sépultures abandonnées. J'ai planté des pins aussi, pour l'odeur qu'ils dégagent les mois d'été. C'est mon odeur préférée. Je les ai plantés en 1997, l'année de notre arrivée. Ils ont beaucoup grandi et donnent une très belle allure à mon cimetière. L'entretenir, c'est prendre soin des morts qui y reposent. C'est les respecter. Et s'ils ne l'ont pas été de leur vivant, au moins, ils le sont de leur mort. Je suis sûre que beaucoup de salauds y reposent, mais la mort ne fait pas de différence entre les bons et les méchants. Et puis, qui n'a pas été un salaud au moins une fois dans sa vie? Contrairement à moi, Philippe Toussaint a tout de suite détesté ce cimetière, cette petite ville, la Bourgogne, la campagne, les vieilles pierres, les vaches blanches, les gens d'ici. Je n'avais pas encore fini de déballer les cartons du déménagement qu'il partait faire de la moto du matin jusqu'au soir. Et avec les mois, il lui arrivait de partir des semaines entières. Jusqu'au jour où il n'est plus rentré. Les gendarmes n'ont pas compris pourquoi je n'avais pas déclaré sa disparition plus tôt. Je ne leur ai jamais dit que cela faisait des années qu'il avait disparu, même quand il dînait encore à ma table. Pourtant, quand au bout d'un mois j'ai compris qu'il ne reviendrait pas, je me suis sentie aussi abandonnée que les tombes que je nettoie régulièrement. Aussi grise, terne, brinque-ballante, prête à être démontée et mes restes jetés dans un ossuaire.